Bonsoir, investiture du gouvernement de l'Union sacrée. Dans le programme de son gouvernement présenté et adopté hier lundi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sama Lukonde retient la lutte contre la corruption parmi ses priorités. Un aspect sur lequel le président Félix Tshisekedi lui-même insiste depuis son accession au pouvoir comme mécanisme de lutte contre la corruption. Sama Lukonde compte notamment renforcer la législation pénale afin que tout détournement des deniers publics, notamment la paie des fonctionnaires, civils ou militaires, soit assimilé à un acte de haute trahison et sévèrement puni. Que pensez-vous de la proposition faite par le Premier ministre pour lutter contre la corruption? Que proposez-vous comme mécanisme à mettre en place pour lutter efficacement contre ce fléau en RDC? Nous en parlons ce soir avec le professeur Florimond Mouteba. Il est président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Il est aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Ernest Mpararo, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Et maître Tom Moma Tamboué, fondateur du laboratoire anti-corruption, anti-valeur et anti-fraude, l'ACAF en sigle. Il est aussi coordonnateur du réseau des personnes qui résistent à la corruption. Maître Tom Moma, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions, vous, auditeurs des radios Capi. C'est le cas de Séraphin Kanombo Lubanza qui dit ceci, nous écrit depuis Kinshasa. C'est une bonne démarche que propose le Premier ministre pour lutter contre la corruption, car celle-ci au Congo fait partie des maladies chroniques qui empêchent son émergence. La meilleure façon pour moi de lutter contre la corruption serait de mieux payer les fonctionnaires, revoir leur salaire à la hausse et faire rajeunir même 80% la fonction publique. Doubé Mwenemboka, depuis Beni au Nord Kivu, je pense que la proposition du Premier ministre est bonne, mais difficile à pratiquer dans cette législature, car certains élus sont députés grâce à cette pratique. Pour y arriver, il faut commencer par réformer la justice, puis punir les corrupteurs et les corrompus au sommet de l'État d'abord, car les escaliers se nettoient de haut en bas. À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présenté hier lundi à l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement en vue de son investiture. Ce programme est axé sur 5 piliers avec plus de 60 axes prioritaires. La diversification de l'économie et la sécurisation du pays, la lutte contre la corruption et la pauvreté sont parmi les priorités. Par toutes ces actions, le gouvernement Sama Lukonde dit s'engager à faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. On écoute un extrait du discours du Premier ministre sur l'aspect corruption que nous propose Michel Kifinda.
Une lutte sans merci sera engagée contre la corruption, la concussion, la facilitation de la délinquance fiscale, le déni de justice, la lenteur injustifiée dans les procédures judiciaires. Il en sera de même pour ce qui est de l'atteinte aux droits fondamentaux ainsi que de toutes les autres atteintes aux droits garantis aux particuliers. Le gouvernement annonce d'ores et déjà qu'à l'horizon 2024, il parachèvera la migration du budget moyen que nous avons actuellement vers le budget programme, ce qui améliorera tant la qualité de la recette que celle de la dépense. Dans le même élan, le gouvernement va renforcer en amont les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs les plus exposés à la criminalité économique et à la corruption, et ce, avec le concours de tous les organes de contrôle, notamment l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes. C'est dans ce but que le gouvernement va finaliser la réforme fiscale en cours ainsi que l'adoption du nouveau code des impôts. Votre gouvernement réaffirme sa détermination à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'évaluation et la réactivation des structures spécialisées existantes en la matière.
Professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, une lutte sans merci sera engagée contre la corruption, la concussion, la lenteur injustifiée dans les procédures judiciaires, le déni de justice, la facilitation de la délinquance fiscale. Que pensez-vous, professeur, de la proposition faite par le Premier ministre pour lutter contre la corruption, notamment renforcer la législation pénale afin que tout détournement des deniers publics, notamment la paie des fonctionnaires civils ou militaires, soit assimilé à un acte de haute trahison et sévèrement puni?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Bien sûr, les renforcements du système judiciaire en aval est une très bonne chose. Mais en amont, il y a d'abord tous les contrôles, parce que le Premier ministre parle seulement de l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, mais le système de contrôle, il est beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire que déjà, au sein même de l'administration, il y a certains contrôles administratifs qui ne fonctionnent pas. Par exemple, le contrôleur budgétaire. Alors, c'est celui qui doit dire, par exemple, à un ministre, « Excellence, cette dépense, vous ne pouvez pas la faire. » Parce qu'il y a, par exemple, il n'y a pas assez de crédits pour ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais ces contrôles-là ne fonctionnent pas. Mais au-delà de celui-là, l'inspection générale des finances, renforcer l'inspection générale des finances, c'est d'abord faire en sorte que l'inspection générale les finances ne soient plus instrumentalisées. Ça, c'est clair. Ensuite, la Cour des comptes. Là, on en parle, on promet, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Ne fût-ce que pour assurer la prestation de serment des magistrats, il y a 51 qui ont été formés, etc., mais qui ne peuvent pas faire leur travail parce qu'ils n'ont pas prêté serment. On le promet, mais on ne le fait pas. Mais madame, au-delà de ça, on a besoin d'une véritable agence de lutte contre la corruption qui soit une institution d'appui à la démocratie. Pas ce qu'on a mis en place et dont vous savez aujourd'hui que ça ne fonctionne pas et ça s'est discrédité. Cette agence est discréditée par la manière d'agir de ses dirigeants. Mais au-delà de cette agence, madame, les autres contrôles, c'est quoi? Il faut que le contrôle parlementaire devienne crédible. Vous savez comment fonctionnent les assemblées aujourd'hui. En plus de ça, il y a aussi au niveau de la passation de marché, la Direction générale des contrôles des marchés publics doit fonctionner, doit avoir les moyens de fonctionner librement et correctement. L'autorité de régulation des marchés, la structure qui lutte contre le blanchiment aujourd'hui, les CNRS, qui lutte contre le blanchiment. Mais madame, il y a aussi les inspections. Vous savez, par exemple, dans les scandales qu'on a eu dans les domaines miniers, nous avons au ministère des Mines une direction d'inspection des mines qui ne fonctionne pas. Mais même les inspections dans les différents ministères comme l'éducation nationale, etc. Donc, madame, la question de contrôle ne peut pas être limitée, comme a dit le Premier ministre, juste à l'inspection générale des finances, parce que la Cour des comptes ne fonctionne pas. Donc, vous voyez que la panoplie de contrôle à remettre sur les rails est très importante. Ensuite, il y a la justice. C'est vrai, il faut faire en sorte que les magistrats puissent fonctionner et travailler dans des conditions matérielles, morales, qui soient bonnes. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on doit renforcer ces côtés-là de la justice. Mais à court terme, à moyen et long terme, la question de la corruption doit être, c'est-à-dire que dès l'école maternelle, primaire, secondaire, université, il faut absolument que le travail soit fait. Et donc il y a un travail à faire, il y a un travail de prévention qui va se faire à court, moyen et long terme.
Professeur, professeur Florimond Mouteba, la RDC possède plusieurs instruments juridiques de lutte contre la corruption. Quel état de lieu peut-on en faire aujourd'hui?
Bon, en fait, on a essentiellement, on peut s'inspirer des instruments internationaux. Mais par rapport à nous-mêmes, l'état de lieu que je peux faire, il est un peu catastrophique. C'est-à-dire que le seul instrument qu'on a essayé de remettre en route, c'est l'inspection générale des finances, mais l'opinion sait dans quelles conditions travaille l'inspection générale des finances. C'est-à-dire l'inspection générale des finances, qui est un instrument que nous voulons voir crédible, est en train de se décrédibiliser. On est en train de le décrédibiliser en faisant un instrument de punitions contre les adversaires politiques, etc. L'autre instrument, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes ne fonctionne pas, madame. Elle ne fonctionne pas, comme je disais tout à l'heure. Il faut faire en sorte que la Cour des comptes, d'abord le nombre de magistrats que nous avons, vous savez que nous n'avons qu'une soixantaine, alors que des pays comme l'Afrique du Sud en ont plus de 2000. La Chine a presque 1 million de magistrats à la Cour des comptes. Et donc, avec le pays comme il est étendu, avec 6 provinces aujourd'hui, il faut déconcentrer les contrôles partout, eh bien, on a besoin de beaucoup plus de moyens que ça. Mais aujourd'hui, vous savez, la Cour des comptes est dans un état de léthargie. De léthargie, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Alors, quel autre instrument que nous avons, c'est la PLC, qui a été créée par le président de la République. Mais la PLC, comme vous le savez, s'est diffusée, même avec ce scandale avec la Access Bank, où on est allé stocker des fonds à un directeur général dans les conditions que vous, la presse, vous en avez suffisamment parlé. Et donc, les autres instruments de contrôle, c'est comme je disais tout à l'heure, ne fonctionnent pas. Par exemple, l'inspection de l'enseignement. Donc là, à l'EPSP, là, on a détecté des millions détournés. Mais cette inspection-là, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Il ne faut pas attendre seulement que la Cour des comptes vienne. Mais ces inspections-là ne fonctionnent pas. Et donc, si vous voulez, la plupart de ces instruments sont vraiment en léthargie et n'ont pas de moyens. Et donc, voilà, la cellule, par exemple, qui lutte contre les blanchiments et la lutte contre le terrorisme, n'a pas les moyens de travailler.
Professeur, ouais. Il y a quelque temps, l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Vous pensez que cette agence est nécessaire en ce moment en RDC?
Absolument, parce qu'elle sera une institution d'appui à la démocratie. Et donc indépendante, un instrument de plus sous la botte donc de l'exécutif, comme l'est l'inspection générale des finances aujourd'hui. Mais ça sera une agence indépendante, une institution d'appui à la démocratie. Et nous, société civile, nous avons lutté longtemps pour avoir une telle agence. Maintenant, je crois que le processus pour le vote est en train de se faire et probablement déjà fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous souhaitons que cette agence-là vienne remplacer la PLC actuelle qui n'est que pratiquement l'inspection générale des finances bis. Parce que, comme vous savez, l'inspection des finances dépend du chef de l'État. La PLC dépend du chef de l'État. Et donc, vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir un contrôle objectif, vraiment objectif. Et donc nous avons vraiment besoin de cette agence qui est une institution d'appui à la démocratie.
Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, vous êtes aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Que pensez-vous, Ernest Mpararo, de la proposition du Premier ministre pour lutter contre la corruption?
Oui, merci beaucoup, madame. Je profite pour saluer le prof Mouteba et tous les autres intervenants. En fait, pour la Likoko, effectivement, bon, nous ce sont des intentions du Premier ministre. Nous allons les juger par des actes. Et le premier acte que le Premier ministre devrait poser, c'est de déclarer ses biens conformément à la Constitution. Et la déclaration des biens de tous les ministres entrants et tous les ministres sortants. Ça, c'est le premier acte que nous voudrions voir le Premier ministre accomplir. Le second acte, effectivement, il y a une proposition de loi réformant le code pénal, parce que, comme vous le savez, notre arsenal juridique en RDC est hyper faible si vous le comparez à la Convention des Nations Unies contre la corruption. La LICOCO, ensemble avec APNAC, nous avions introduit une proposition réformant le code pénal actuel, en y introduisant certaines dispositions, dont par exemple les cadeaux aux fonctionnaires de l'État. Vous avez suivi dernièrement, le chef de l'État a reçu des députés, il les a distribués $1,000 de carburant. Si nous avions un arsenal interdisant cela, vous voyez directement, la justice pouvait se saisir de cet acte et interpeller le président et les députés qui ont reçu les 1000 dollars. Vous avez suivi beaucoup d'autres cas qui ne sont pas dans l'arsenal politique, dans l'arsenal judiciaire, je dirais. Donc, le premier acte que nous attendons, c'est que le Parlement, le gouvernement incite les députés à voter cette proposition de loi qui renferme, qui vient compléter la faiblesse de notre arsenal juridique afin de l'harmoniser avec les conventions des Nations Unies contre la corruption. Comme Prof. Moutebala a dit aussi, effectivement, nous avons des structures qui existent, mais ces structures-là ne travaillent pas. Pourquoi ne travaillent pas? Parce que les politiques n'aiment pas que les choses marchent. Maintenant, comme le Premier ministre s'est engagé, nous allons le voir par les actes. On ne peut pas commencer à les condamner maintenant. Nous allons voir les actes qu'il va poser. Parce qu'il s'est donné l'objectif de mobiliser 36 milliards sur les trois prochaines années qui arrivent, jusqu'en 2023. Or, pour mobiliser les 36 milliards, il doit lutter contre le détournement des deniers publics. Or, la manière dont la lutte est menée aujourd'hui, Prof. Moutebala venait de le dire, il y a l'IGF qui est actionné et nous considérons l'IGF comme un instrument de règlement des comptes politiques. Pourquoi? L'IGF aujourd'hui, lorsque tu n'es pas membre de l'Union sacrée, tu es poursuivi. Donc, nous voulons effectivement que les autres institutions fonctionnent bien. Nous voulons que la Cour des comptes soit activée. Nous voulons que les commissions, la commission économique du Parlement soit activée. Nous voulons qu'on puisse auditer les présidents de la République. Parce qu'on nous a dit ici qu'il y a eu 400% de dépassement. Donc l'exemple doit commencer par lui-même, par le président de la République, par les institutions politiques. Vous avez suivi ici avec nous qu'il y a eu de l'argent qu'on donnait 12 millions seulement pour une session extraordinaire du Parlement. Vous aviez suivi plusieurs députés.
C'est à vérifier tout ça.
Effectivement. Donc ce sont des actes comme ça que nous voulons voir le Premier ministre poser son gouvernement pour croire à cette lutte contre la corruption.
Alors lutter contre la corruption, priorité du gouvernement, ça marche. C'est un aspect sur lequel le président Félix Tshisekedi lui-même insiste depuis son accession au pouvoir. Ernest Mpararo, quel bilan faire à ce jour de la lutte contre la corruption depuis l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC?
Pour nous, la lutte contre la corruption doit être coulée dans une stratégie nationale. Ça, c'est la première. Et la lutte contre la corruption doit avoir l'adhésion de toute la classe politique et de toute la société. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Oui, le président veut lutter contre la corruption, mais il ne le fait pas dans une sorte de stratégie nationale. Il n'invite pas les acteurs politiques pour leur dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, voici ma direction. Si vous n'êtes pas content, en tout cas, ça ne me regarde plus. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate même que, au sein même de la présidence, il y a des problèmes de corruption. Professeur Moutebala venait de le dire avec l'APC. On sait même que certains conseillers du président sont impliqués dans plusieurs dossiers. Qui les contrôle? Est-ce que la justice le fait? Nous voyons effectivement qu'il y a cette lutte, mais la lutte est politiquement motivée. C'est ça ce que l'on constate. On constate effectivement tous ceux qui ont été, trois quarts des personnes qui ont été condamnées dans le procès des 100 jours, la plupart sont sortis de prison. À ce moment-là, quel est le bilan que nous pouvons dire? C'est un bilan mitigé, effectivement. On veut punir. Si vous adhérez à ma vision, je vous pardonne. Mais si vous n'adhérez pas, on vous condamne. C'est ça le bilan que nous pouvons dire jusqu'à présent. Et je pense effectivement que les hommes politiques, les chefs de l'État, les premiers ministres vont se ressaisir et faire une lutte contre la corruption comme une stratégie, une priorité nationale. Ça doit être coulé dans une sorte de stratégie, pas par des mots, pas par des actions téméraires, pas par des actions sectorielles. Ça doit être quelque chose qui commence depuis la base, depuis les chefs de quartier, les chefs de secteur, jusqu'à la présidence. Tout le monde doit savoir, à partir d'aujourd'hui, je ne vole plus. C'est ce que nous voulons effectivement.
Maître Tom Momatamboué, fondateur du laboratoire anti-corruption, anti-valeur et anti-fraude, la CAF en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur du réseau des personnes qui résistent à la corruption. Maître Tom Moma, quel est votre point de vue par rapport à la proposition du Premier ministre pour lutter efficacement contre la corruption?
Oui, le discours du Premier ministre est un discours à saluer dans la mesure où il s'engage résolument dans l'optique de la lutte contre la corruption. Mais néanmoins, nous devons retenir que quand il s'agit de la lutte contre la corruption, il y a la volonté politique qui compte. Et cette volonté politique, il y a la volonté politique déclarée. Et c'est dans le discours. Et ce n'est pas la première fois que nous avons entendu un politique lever le bouclier pour lutter contre la corruption. Et si vous vous souviendrez bien, depuis l'époque Mobutu avait dit, même lui, à l'époque déjà, qu'il voulait mener la lutte contre la corruption, mais rien n'avait changé. Nous avons eu encore, pendant la Troisième République, avec le régime passé, on a dit que les portes des prisons seront ouvertes et pour nous qui sommes des activistes des droits de l'homme qui luttons contre la corruption, nous pensions que beaucoup d'hommes publics, même des simples citoyens qui sont convaincus de corruption, allaient être sanctionnés de façon exemplaire, mais rien de tout cela n'est arrivé. Alors maintenant, ce qui compte, c'est quoi? C'est la déclaration, il faut maintenant une volonté réelle. Et la volonté réelle, ça doit se traduire par des actes. Et quand nous parlons des actes, il faut toute une procédure à suivre en ce moment-là. Pour ne pas naviguer à vue, il faudra d'abord choisir des hommes valables qui peuvent mener cette lutte contre la corruption. Le président de la République qui a annoncé cette volonté, c'est bien, mais il doit se choisir des hommes. Malheureusement, il y a le professeur qui est sur le plateau avec nous ce soir, qui donne déjà le cas malheureux de la CLPT, ce qui montre que des hommes sur qui on pouvait miser, mais malheureusement, ils se sont compromis. Alors là, ça pose le problème du choix des hommes. Alors, pour choisir des hommes, il faut des hommes intègre, ça ne doit pas se déclarer seulement comme ça. Notre législation a été adaptée, a été réformée pour se conformer à la vision de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous avons une législation qui est suffisamment sévère, mais malheureusement, l'applicabilité, c'est ça qui pose problème. Pourquoi? Là, nous revenons au problème des hommes. Vous savez, dans la République démocratique du Congo, le plus grand problème pour ce qui concerne la corruption, c'est la grande corruption. Et la grande corruption se retrouve dans la haute sphère politique, ce sont les politiciens. Vous entendez que tel vient de s'étaler avec 2 millions de dollars en poche, tel a fait tout cela. Alors, tout ça, c'est beaucoup d'argent dont on a besoin pour pouvoir redresser le pays. Alors, voilà pourquoi, sur ce plan-là, il faudra compter sur des hommes qui sont réellement dans les témoignages, qui ont la réputation d'être des hommes
Maître Tom Mouma, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Kinshasa qui dit « Si vous voulez lutter efficacement contre la corruption, il s'appelle Serafin Kalombo, il faut bien payer les fonctionnaires, revoir leur salaire à la hausse et faire rajeunir même à 80% la fonction publique. »
Bon, je pense que le problème de salaire, des conditions de vie, les conditions de vie de ceux qui travaillent pour le compte de l'État n'est pas à négliger, mais ce n'est pas la raison suffisante, pour la bonne raison que ceux qui détournent l'argent, c'est des gens qui ne sont pas mal lotis. Vous entendez que tel est traduit en justice, il a détourné autant de milliards de francs congolais, et vous savez, c'est des millions, des millions. C'est des gens qui ne sont pas mal payés. Alors, c'est pourquoi, bien sûr, il faut améliorer les conditions de travail.
Aujourd'hui, on dénonce quand même la corruption. Aujourd'hui, on dénonce quand même la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale et à tous les niveaux, Maître Tom Mouma.
Oui, c'est ça qui se dit. Nous disons la même chose. La corruption, elle est à tous les niveaux. On peut améliorer les conditions, mais ceux qui ont l'habitude, ça va avoir un problème culturel. Ceux qui ont dans la culture, dans leur mentalité, même si on leur donne des millions, ils vont continuer encore à chiper, à mettre la main dans le compte du trésor. Dans ce moment-là, d'abord, il faut réformer la mentalité. Et pour réformer la mentalité, c'est pourquoi il faudra un exemple fort par la sanction. Des sanctions exemplaires, et non pas de manière sélective. Il faudra que tous ceux qui sont soupçonnés de corruption soient traduits en justice et condamnés dans la mesure où la loi doit être égale pour tous. Et en ce moment-là, ça servira d'exemple. Nous n'allons plus parler de la corruption qui est en train de se propager comme une grande graine, comme vous venez de le dire là.
Merci Maître Tom Tamboué. Les auditeurs sont très très nombreux à appeler sur notre standard. Professeur Florimond Mouteba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Thomas Emmanuel Nkashama, à partir de Kinshasa, commune de Selembao. L'intention de lutter contre la corruption n'est pas un fait nouveau dans le discours politique de notre pays. Seulement, La distance qui sépare se veut et la réalité est poignante ou criante. Le même discours a été tenu par son prédécesseur, le Premier ministre Ilunga, qui en action n'a fait aucun geste allant dans ce sens. La proposition du Premier ministre est louable. Pour son accomplissement, il faut que son gouvernement prêche par l'exemple, car les efforts du président de la République de lutter contre la corruption rencontrent plusieurs obstacles, d'autant plus que cela n'est pas du tout partagé par plusieurs dirigeants qui se trouvent eux-mêmes dans les systèmes des corrupteurs et voleurs. Le cas des ministres des tourneurs en dit tout. Voilà pourquoi le Premier ministre doit lancer dans chaque secteur les audits afin de saisir les réalités économiques de chaque secteur ou entreprise. Il doit rendre opératoire la Cour des comptes. Enfin, il doit munir l'IGF de matériel nécessaire pour inspecter les ministres, les DG, les PCA et toutes les autorités qui gèrent le pays, et cela à chaque trimestre.
Professeur Muteba, que pensez-vous du point de vue de Tosh Kashama qui nous a appelé depuis Kinshasa?
Je l'approuve totalement. D'ailleurs, la remise et reprise entre le gouvernement entrant et celui qui sort doit être accompagnée des audits partout, dans tous les ministères. Donc, ça ne sera pas juste des papiers qu'on signe et ben voilà. Il serait important que la Cour des comptes, notamment l'inspecteur général des finances, puisse vérifier comment les sortants ont géré donc les deniers publics. Et avant de... Il faut que tous ne quittent pas le territoire national avant que ces audits soient faits. Parce qu'il faudra que la remise et reprise se fasse en concluant que, bon, voilà, les sortants avaient bien géré, il n'a pas détourné l'argent de l'État, etc., etc. Et donc, mais en fait, madame, au-delà de ça, c'est la question de l'exemple. Moi, je vous donne un exemple, parce que je vais répondre à plusieurs choses à la fois. La question de les salaires, oui, il faut payer correctement les salaires, mais vous savez, quand on regarde, vous avez suivi, par exemple, M. Yuma à la télévision, les conditions dans lesquelles les ressources naturelles du Congo ont été confisquées par les multinationales, les conditions dans lesquelles les royalties qui devaient revenir à la Gécamine et à l'État ont été transférées à un homme d'affaires israélien. Mais qui a fait ça? Qui a facilité? Ce sont les politiques à l'époque. Ce sont les Yuma lui-même, là, les PCA de la Gécamine. Ce ne sont pas des gangs petits. Ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais les Congolais sont habités par une cupidité maladive. Et donc, vous savez, madame, vous allez même dans les ministères, vous trouverez des projets qui sont financés par la BAD, la Banque mondiale, etc. Tous ces fonctionnaires qui gèrent ces projets, qui doivent donner des marchés, etc., ils sont corrompus jusqu'à la moine épinière. Corrompus jusqu'à... Mais ces gens-là ne touchent pas souvent pas moins de 6 000 dollars par mois. Vous voyez que le problème est un problème culturel pour lequel on doit vraiment se battre jusqu'au bout. Vous voyez par exemple, encore un autre exemple, mon ami Pararo venait de parler de 1 000 dollars qu'on a donné. Vous savez, au total, madame, ça fait 400 000 dollars. Ça vient d'où? Cet argent vient de quelle ligne budgétaire? C'est sorti d'où? Vous voyez comment on peut comme ça gaspiller les fonds publics. 400 000 dollars, c'est beaucoup, et ça c'est pour une seule journée, n'est-ce pas? Et ensuite, on va promettre à ces gens-là, oui voilà, vous savez, vos vacances parlementaires seront plus d'argent. Mais comment? De quelle manière? Avec quels moyens? Vous voyez que l'exemple, madame, doit venir d'en haut. L'exemple doit venir d'en haut. Vous voyez, un pays comme le Botswana, par exemple, qui a les diamants, comme nous ici, les ressources naturelles. Le Botswana est un pays émergent. Pourquoi? Le Botswana a eu des dirigeants depuis le début jusqu'à aujourd'hui, des gens exemplaires, des hommes politiques honnêtes, intègres. Et ils ont fait en sorte que la corruption là-bas, elle est vraiment, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle est à un niveau presque proche de zéro. Proche de zéro. Il y a d'autres exemples que je ne vais pas citer parce que les Congolais sont souvent très allergiques au Rwanda. Mais, madame, là-bas, c'est pareil. On a vu un ministre menotté pendant les conseils des ministres parce qu'il était soupçonné donc de corruption. Donc vous voyez, l'exemple doit venir d'en haut.
Merci.
Et les consignes doivent être sévères en bas pour que la justice fasse son travail. Allez, prenons les camps de procès de 100 jours.
Professeur, je vais vous redonner la parole, le temps de prendre cet autre auditeur qui est en train d'appeler et nous appelle depuis Uvira, au sud Kivu. On va le prendre pour vous, Ernest Mpararo.
Je suis Amani Kasali Placide, depuis Uvira, au sud Kivu. La proposition du Premier ministre est tout à fait bonne, mais insuffisante, car il faut dire que même si on renforçait le tribunal pénal contre les corrupteurs sans avoir engagé une lutte préliminaire, la corruption au Congo existera toujours. Il faut donc pour cela introduire au niveau de l'enseignement primaire et au niveau même des familles un enseignement consistant à lutter contre la corruption. Il faudrait ainsi faire de sorte que la RDC soit véritablement un état de droit, que ça ne soit pas seulement un slogan il faut chanter partout, mais pratiquement que cela ne se voit pas.
Ernest Mpararo, il faut introduire tout un enseignement au niveau de l'école primaire. Professeur Philemon l'a évoqué dans sa première analyse.
Effectivement,
vous pensez que c'est important?
Ce sont des mécanismes de prévention. Et les mécanismes de prévention, nous avons des structures qui travaillent sur cela. Il y a par exemple l'OCEP qui sensibilise les fonctionnaires. Il y a par exemple les CSM. Le CSM, c'est une commission pour le changement des mentalités qui est à la présidence. Mais le comble que c'est toutes ces commissions structures qui sont créées par la présidence, on les voit jamais à Iru, à Aru, on les voit jamais à Kabeakamwanga, on les voit jamais à Idiofa. Donc ils sont dans les bureaux climatisés ici à Kinshasa. Alors ces structures-là qui sont payées, qui ont des bons bureaux et ils ont des belles voitures. Bon, vous voyez, on crée pour effectivement dire aux partenaires extérieurs, bon, tu sais, nous avons des structures, mais sur le terrain, effectivement, il y en a pas. Et je pense qu'effectivement, il faut introduire des cours de civisme à l'école. Et dans des programmes de civisme, on peut y introduire des cours d'éthique, des cours d'intégrité. Qu'est-ce que signifie intégrité au niveau des élèves? À ce moment-là, les enfants grandissent avec ces notions d'intégrité, ces notions d'éthique. Mais, effectivement, le Premier ministre a vraiment du travail à faire. Et je pense que s'il est stratégique, s'il veut mobiliser l'argent, l'une des priorités, effectivement, c'est de fermer tous les robinets et où les recettes coulent. Et c'est de fermer toutes les fenêtres, toutes les portes où les recettes passent. Donc je pense que effectivement, le Premier ministre, il doit poser les actes. Nous devons le voir par les actes pour l'applaudir. Et si nous ne voyons pas les actes concrets, nous allons continuer à les critiquer, étant donné que c'est la vie de toute une nation qui est mise en jeu. Et comme vous le savez, ce que prof a dit, qui sait, au niveau de la SADC, la RDC, le seul pays où nous avons une capacité de mobiliser nos ressources propres à moins de 20%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous détournons 80% et on laisse à l'État 20%. Avec cet argent, comment est-ce qu'on peut développer les pays? Comment est-ce qu'on peut financer les réformes?
Merci.
Comment est-ce qu'on peut soutenir la gratuité? Comment est-ce qu'on peut soutenir l'accès aux soins de santé universels? Comment est-ce qu'on peut donner de l'eau à tout le monde? Donc, c'est impossible.
Merci.
C'est pour ça que je disais, madame, il faudrait que le chef de l'État ait une stratégie nationale pour lutter contre la corruption.
Mais Ernest Mpararo, qu'est devenue la stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée en 2009?
On l'a mis dans le tiroir, madame. Nous avions fait tout pour la ressusciter, pour que le gouvernement, l'ancien régime puisse la mettre en pratique. Mais on l'a mis dans les tiroirs. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons des budgets de 3,5 milliards. Avec 3,5 milliards, quelle réforme de l'éducation vous allez soutenir?
Merci.
Avec 3,5 milliards, Ernest. Quelle réforme de santé vous allez soutenir?
Maître Tom Moma Tsamboué, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Cette proposition du Premier ministre de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille est, à mon humble avis, salvatrice en vertu du principe selon lequel la justice élève une nation. Il est quasiment impossible de bâtir un État fort, riche et développé dans un environnement gangréné par la corruption, l'impunité et le détournement en outrage. Pour ce faire, il faudrait que le chef du gouvernement puisse d'abord améliorer les conditions de vie des magistrats et tout ce qui travaille dans ce secteur pour qu'ils ne se fassent pas corrompre. Il faudrait en outre envisager la réforme de la justice en créant un tribunal de lutte contre la corruption, l'impunité et le détournement, ainsi que l'enrichissement illicite. Il faudrait aussi bâtir un état de droit de manière à ce qu'il y ait une justice impartiale.
Maître Tom Momatambwe, cet auditeur de Kisangani donne là quelques pistes de solutions pour lutter efficacement contre la corruption en RDC. Brève réaction.
Oui, je salue le point de vue de l'auditeur quand il parle d'une justice où il pense qu'on crée un tribunal qui est chargé spécifiquement de la lutte contre la corruption. Je crois qu'il y a une loi qui n'était pas passée, qui a été réclamée au Parlement, mais au-delà de ce tribunal, moi je pense qu'il n'est pas malvenu de parler, par exemple, d'un parquet financier. Le parquet financier ne travaillerait pas, cette fois-là, avec des magistrats qui seraient seulement des généralistes. Il faut des magistrats qui ont des connaissances affinées en matière de lutte contre la corruption et même l'aspect financier. Comme vous le savez, ce domaine-là, c'est un domaine qui est qui exige de la technicité. Il faut avoir des connaissances vraiment au point. Alors, à ce moment-là, vous avez des magistrats qui sont bien rodés et bien formés pour pouvoir renforcer la lutte contre la corruption. Et même s'il y aurait un tribunal, le tribunal ordinaire que nous avons, mais avec un parquet qui est musclé, je pense que nous aurons droit à une justice qui soit digne d'être appelée justice et qui puisse élever la nation, comme l'auditeur vient de le dire.
Professeur Florimond Mouteba, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre magazine. Professeur, qu'est-ce que vous proposez comme mécanisme à mettre en place pour lutter efficacement contre ce fléau en RDC, contre la corruption en RDC?
Bon, d'abord, comme je disais au départ, il faut réhabiliter tous les contrôles. Ils sont vraiment en panne. Il faut réhabiliter tous les contrôles. La deuxième chose, c'est que, je dirais même que c'est la première. Il faut que l'exemple puisse venir d'en haut. Ernest Mparaur qui est là, c'est que, avec Transparency International, je crois dans les années 2007-2008, on a produit un document qui s'appelle le Système National d'Intégrité, qui décrit très bien ce fléau et propose une série de solutions. Mais parmi les recommandations, il est dit que le chef de l'État, le président de la République, doit être celui qui va vraiment donner l'exemple et pousser à ce que la stratégie qu'on peut mettre en place, comme celle de 2009, elle a été mise dans le tiroir, mais que cette stratégie-là soit puisse être vraiment mise en application. Donc, l'exemple doit venir des dirigeants et c'est très important. Il y a le système judiciaire, comme nous l'avons dit, qu'il faut renforcer, donner les moyens, donner des consignes de sévérité pour que les criminels, les colonnas là en col blanc, puissent vraiment donc être mis hors d'état de nuire.
Enfin.
Il y a bien sûr l'éducation. L'éducation est très importante parce que nous sommes au Congo entrés dans un problème de lutte culturelle pour en finir avec la corruption. Pour lutter avec la corruption, il faut voir la question à court, moyen et long terme. Et parmi les solutions à moyen et long terme, il y a l'éducation. Donc, je vais laisser les autres aussi contribuer.
Merci.
Mais déjà, voilà un peu quelques contributions que je donne là.
Merci, professeur Florimond Mouteba. On va considérer cela comme votre conclusion. Ernest Mpararo, vos propositions. Mais avant cela, signalons quand même que la RDC occupe aujourd'hui la 170e place sur 180 dans les classements de Transparency International de 2020 publié au mois de janvier 2021 sur l'indice des perceptions de la corruption. Donc la RDC a régressé de deux rangs par rapport au classement de 2019 où elle était classée à la 168e place. Ernest Mpararo, vos propositions pour lutter efficacement contre la corruption?
Effectivement, madame, mes propositions sont: 1. On doit voter urgemment la loi portant modification du code pénal et qui va effectivement renforcer l'arsenal juridique en RDC et qui va punir pas mal d'actes que nous posons, mais que nous ne savons pas que ce sont des actes de corruption. La seconde, c'est qu'on doit avoir une stratégie nationale et ne pas agir sectoriellement. Parce que dès que vous agissez sectoriellement, vous n'arrivez pas à changer, vous n'arrivez pas à avoir des impacts. Donc on va suivre un chronogramme, suivre une direction, et on y va petit à petit, tout en mettant en place toutes les structures de contrôle pour qu'ils puissent travailler, pour que toutes ces structures puissent se contrôler entre eux. Par exemple, aujourd'hui, qui contrôle l'IGF? Personne. Qui contrôle le président de la République? Personne. Qui contrôle les cours et tribunaux? Personne.
Merci.
Or, c'est la Cour des comptes qui doit faire ce travail, mais comme elle n'est pas active, ces gens-là, ils agissent comme des électrons libres. Donc, pour moi, je pense qu'on doit renforcer l'arsenal juridique, on doit permettre à ce que les institutions se contrôlent entre elles, et comme ça, on va promouvoir la gouvernance et on va atténuer les risques de corruption dans le pays.
Merci, Ernesto Mpararo. Maître Tomoma Tambwe, votre conclusion?
Oui, en conclusion, j'aimerais rappeler que ce que nous venons d'entendre de la part du Premier ministre, c'est la volonté déclarée, mais nous avons besoin de la volonté réelle. Cette volonté réelle doit s'établir dans les actes, et cela, c'est en tenant compte d'abord que les exemples vivants sont d'un grand pouvoir. Il faut que les hautes autorités politiques donnent l'exemple pour dire que c'est des hommes propres, ils n'ont pas les mains sales. Et à ce moment-là, passer à l'étape maintenant d'appliquer une justice qui soit réellement à la mesure de pouvoir élever la nation. Et pour cela, il faudra compter sur des hommes réellement intègres qui ont un témoignage comme étant des hommes capables de mener la lutte contre la corruption et donner aussi les moyens aux mécanismes institutionnels qui existent. Nous avons par exemple l'OCEP qui a toute une expertise mais dont on ne donne pas les moyens, par exemple, pour se déployer sur l'ensemble du territoire national de manière à encadrer les agents publics de l'État, parce que la plus grande corruption, c'est en commençant aussi par le secteur public.
Merci.
Alors, en ce moment-là, si cela est appliqué, nous pensons que nous pourrons espérer trouver quand même des solutions satisfaisantes.
Merci, Maître Tom Momatamboué, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Dona Madimba, Martin Seboujangoué, merci à Polydore Basunga qui était à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.